Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 2 de la suprême intention, la série de la suprême intention. Et le titre pour aujourd'hui sera « Vivre pour l'intégralité du dessein de Dieu ». Vivre pour l'intégralité du dessein de Dieu. Quand nous regardons les choses de son point de vue éternel, notre myopie disparaît. Nous commençons à voir que tout ce que Dieu fait vient parfaitement s'intégrer dans son plan général. Au lieu d'avoir toute une collection de faits détachés, touchant à tous les sujets imaginables, nous voyons chacun d'eux à la place qui lui est assignée et où nous pouvons toujours les retrouver. Nous pouvons voir un sens nouveau et une intention éternelle dans tout ce qui se passe, puisque tout se rattache d'une manière ou d'une autre, à une pensée suprême. C'est un grand jour qui se lève quand nos yeux cessent de s'attacher à des torrents isolés pour admirer la corde solidement tressée du dessein éternel du Père. Trop longtemps, chacun de nous a interprété la vie sur la base d'une conception partielle. Mais dans l'étude précédente, l'étude que nous venons d'avoir eue hier, nous avons compris que Dieu, dans son essence de Père, est le suprême point de départ à partir duquel toutes choses peuvent être appréciées selon la place qui leur est assignée dans l'ensemble. Faute de connaître le sens suprême de la vie, les hommes n'ont pas eu d'autre ressource que d'apposer un peu partout l'étiquette « mystère ». Ils ont parlé du mystère de sa volonté, du mystère de la création, du mystère de la souffrance, du mystère de l'intention suprême de Dieu. Mais il est grand temps de reconnaître que Dieu a fait briller la lumière du sein des ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas enfermer éternellement dans le mystère les intentions du Père parce que maintenant, sa lumière a commencé à poindre pour nous dévoiler son cœur, ainsi son désir, son dessein et sa résolution. Dans quel but ? Pour que ses enfants puissent explorer la vie dans ses dimensions les plus profondes et y entrer pleinement. L'erreur la plus commune dans laquelle nous sommes tous tombés, c'est peut-être d'avoir confondu les méthodes et les moyens avec la fin. En faisant de l'homme le principal instrument d'exécution du dessein de Dieu, on en a conclu que la conformité à l'image de Christ était la fin, alors qu'elle n'est qu'un moyen, pour assurer une fin beaucoup plus importante. D'autres ont pris le salut et l'admission au ciel comme étant la fin. D'autres encore ont pensé qu'il importait surtout de compléter son Église glorieuse et son tâche, et que c'était là la fin. Ou encore, qu'en amenant toutes choses sous le gouvernement universel du royaume, on arrivait ainsi à la fin. Or, ce ne sont là que des moyens, d'importants moyens, d'accord, sans doute, mais rien de plus que des moyens par lesquels Dieu réalisera son véritable objectif qui est combien plus élevé. Tant que nous n'avons pas compris quelle est l'intention suprême de Dieu, nous nous concentrerons sur les méthodes et les moyens et nous n'embrasserons jamais ni le sens général de la vie, ni ses vraies dimensions, ni le dessein qui est caché dans le cœur du Père. Nous avons représenté les différents torrents qui composent la corde de l'éternité. Cette corde est constituée par les nombreuses voies et les méthodes variées par lesquelles Dieu se propose de réaliser son dessein éternel. Nous ne pouvons mesurer la contribution apportée par chaque élément qu'en déployant les différents torrents afin de voir quelle est leur importance relative à la lumière du plan d'ensemble établi par Dieu. Dans l'étude précédente, nous avons remarqué le thème paternel qui traverse le dessein de Dieu de bout en bout. De nombreux chrétiens n'en reviennent pas de l'avoir ignoré si longtemps. Saint Paul a répondu en une seule phrase, et il a cité Éphésiens, chapitre 1, versets 3 et 4, à la plupart des questions que nous pourrions poser au sujet du Père et de cette grande famille qu'il est ou qu'il s'est assuré et qui est en train de se constituer maintenant par le ministère de son Fils unique. L'auteur, c'est lui, Dieu le Père, verset 3. L'œuvre, il nous a élus, nous a sélectionnés pour nous recevoir dans sa famille comme des fils. Verset 4, je parle d'Éphésiens chapitre 1. Le moyen, il se trouve en lui, Christ le Fils éternel, occupant sa place dans tous les éléments du tableau. Verset 3, 4, 5, 6, 7 et le verset 10, toujours d'Éphésiens chapitre 1. Nous avons la date, elle est avant la fondation du monde, verset 4. Le but, pour lui-même, comme sien, pour son plaisir, pour sa gloire et sa satisfaction. Le lieu, pour que nous soyons devant lui dans son immédiate présence. Chaque torrent n'est donc qu'une partie. C'est ainsi que saint Paul nous donne une vue panoramique des vastes activités par lesquelles Dieu allait réaliser sa famille. Mais avant qu'il en entreprît une seule, il les avait toutes dans sa pensée et également dans son cœur, voyez-vous. Chers amis, essayons un peu d'en fixer des valeurs respectives. Si nous essayons de comprendre le but de la création en prenant comme point de départ le Dieu créateur, nous nous heurtons à une énigme. Ce n'est que lorsque nous partons de Dieu le Père que nous pouvons comprendre pourquoi il a créé l'homme et tout ce qui était nécessaire à la subsistance de sa famille. Voyez-vous, certains naturalistes, ainsi que quelques sociétés secrètes, se sont plu à construire tout un système religieux autour de la gloire et de la majesté de la création. La nature, répétait-il avec insistance, c'est Dieu révélé. Mais les œuvres de ses mains ne sont là que pour nous conduire à sa personne, pour que nous l'adorions lui et non ses œuvres. D'autres interprètent mal le torrent de la providence. Ils voudraient ramener Dieu à la dimension d'un grand Père Noël qui serait au service de l'homme pour pourvoir à tous ses besoins. Ils savent qu'il est un bon Dieu, mais ils n'ont pas vraiment compris quel est le fondement de son activité providentielle. Tant qu'ils ne verront pas que le Père ne s'est pas contenté de pourvoir aux besoins de la famille qu'il avait créée par l'ordre de la nature, mais qu'il a entrepris envers ses enfants, qu'il a engendré une œuvre, oui, une œuvre bien plus profonde. Ils ne saisiront donc pas l'élément providentiel et ne verront pas comment il s'intègre dans l'ensemble du dessein paternel. D'autres encore mettent un accent exagéré sur les torrents du royaume, comme si l'établissement du royaume et d'un gouvernement juste était le numéro un du programme divin. C'est un élément important, d'accord, bien sûr, c'en est une partie, mais ce n'est pas le tout. Ce n'est que lorsque nous voyons en Dieu essentiellement le Père, que nous pouvons comprendre quelle place il convient de donner à l'autorité dans sa famille. Cette notion n'est alors ni négligée, ni exagérée. Nous voyons qu'elle n'est qu'un moyen de réaliser son intention suprême au milieu des siens. Nous savons bien aujourd'hui, n'est-il pas vrai, que ceux qui mettent l'État ou le gouvernement au sommet ne considèrent plus l'homme que comme un simple pion qui n'existe que pour l'État. Mais nous croyons qu'il y a au sein de la chrétienté une vaste majorité de personnes qui ont fait du torrent de la rédemption le but suprême, comme si ce torrent était toute la corde, ou du moins celui autour duquel tous les autres étaient enroulés. Tout alors devient faussé. Nous ne pouvons voir la rédemption dans sa plus grande gloire que lorsque c'est un Père qui rachète l'homme pour pouvoir réaliser son dessein originel. En outre, nous savons que notre Père céleste n'aurait jamais pu envisager la chute simplement pour pouvoir racheter l'homme. Il nous suffit de jeter un coup d'œil rétrospectif dans son cœur de père pour être bien certain que dès l'éternité, le rachat de l'homme avait toujours été dans ses possibilités. Le torrent était déjà là, prêt à être mis en œuvre dès que le besoin s'en ferait sentir, quand l'homme choisirait sa propre voie. Du point de vue de Dieu, il se trouvait toujours dans le plan éternel, mais de notre point de vue, il attendait que l'homme eût fait son choix moral. Nous voyons ainsi que ce torrent joue un rôle important tout en n'étant qu'un moyen et certainement pas le but que Dieu avait en vue. Alors, pourquoi donc prêchons-nous, sinon comme doctrine, du moins par inférence, comme si la rédemption était le seul thème de l'économie divine? Même le torrent de la sanctification a un aspect éternel, aussi bien qu'une place dans le temps, car dès le commencement, le Père avait décidé de mettre à part tous ceux qu'il avait destinés à devenir des fils adultes pour faire d'eux sa possession particulière. C'est dans le même passé éternel qu'il détermina que le fils qu'il allait créer, Adam, entrerait le moment venu dans une relation filiale avec lui et jouirait du privilège d'avoir part à la vie incréée du Père par le Fils. C'était sa résolution de Père, non seulement que Adam partageait son image et sa ressemblance, mais sa vie même. Oui, son esprit, sa nature, sa mentalité, si j'ose ainsi dire. En participant à ces biens immatériels, Adam deviendrait, lorsque les temps seraient accomplis, un fils de ses entrailles et jouirait du privilège d'avoir part, grâce au Fils, à la vie non créée du Père. De cette manière, il aurait pu, par sa propre réaction à l'invitation du Père, se qualifier pour devenir le glorieux instrument capable de révéler le Père éternel comme le devint le Seigneur Jésus-Christ quand les temps furent accomplis. Or, tous les torrents que nous venons d'examiner, création, providence, royaume, sanctification, famille et finalement révélation, ont leur importance comme moyen et méthode par lesquels Dieu réalisera son intention suprême. Ils constituent un parfait ensemble dans l'optique de l'éternité, bien que nous les voyons séparés pour apprécier la valeur de chacun d'eux. Dans cette perspective plus large de la pensée suprême du Père, nous constatons que la vie comprend quatre dimensions. Premièrement, il y a la longueur de la vie. Il est assez indifférent que nous vivions longtemps ou non, pourvu que nous vivions dans l'éternel, en comprenant le point de vue de Dieu. Deuxièmement, sa largeur, la mesure de plénitude et l'intérêt de notre vie. Lorsque nous découvrons à quel point le Père s'est consacré à son dessein, nous sommes poussés, comme le fut le Seigneur Jésus, à nous donner sans réserve pour l'aider à atteindre tout ce que son cœur désire. Que pourrait-il y avoir de plus intéressant? Troisièmement, la profondeur de la vie pour nous, elle correspond à l'intensité du don de nous-mêmes. Cette dimension-là, nous pouvons aussi la mesurer car ce n'est pas une simple consécration à un projet ou à une cause, ni à une carrière avantageuse, mais à une personne. La profondeur est déterminée par la manière dont nous vivons pour lui. Enfin, il y a cette mystérieuse quatrième dimension que nous pourrions appeler la raison d'être de la vie, pourquoi nous vivons. En dehors d'une révélation de son cœur de Père, la vie à un niveau absolu serait impossible. Il n'y aurait aucun moyen de mesurer ce qui est vraiment absolu. Pourquoi entreprit-il de créer? Oui, pourquoi? Pourvoit-il à tout si fidèlement? Pourquoi tient-il les leviers de commande? Pourquoi A-t-il incorporé la rédemption à son dessein? Pourquoi nous a-t-il mis à part dans le passé éternel? Pourquoi a-t-il envisagé de nous engendrer spirituellement? Pourquoi la révélation que Dieu a donnée de lui-même est-elle si impérative? Ce n'est certainement que lorsque nous commençons à vivre au niveau éternel, partageant sa consécration absolue, son don total de lui-même et son intention suprême, que nous pouvons connaître les dimensions absolues de la vie. Mais tout ce que cela signifie, on ne peut en prendre conscience que en ayant une vision lucide des choses de son point de vue, une vision complète de leur rapport avec l'ensemble. Oui, tant que les hommes se laissent accaparer par ce qui est partiel, tel que le salut, la souffrance, le péché, et toute cette tragédie, il leur est difficile de voir l'ensemble qui est le dessein de Dieu. Cependant, Dieu cherche toujours à nous élever à une prise de conscience intime de son intention suprême qui laisse la souffrance loin derrière elle et la transforme en une participation plus étroite à l'activité divine, cette activité qui est créatrice, riche de sens et qui débouche sur l'absolu. Il s'agit donc vraiment de vivre pour l'intégralité du dessein de Dieu. Voici le témoignage d'un papa. Un matin, je me dirigeais vers la porte de derrière pour appeler notre petit garçon. Il avait 3 ans. J'avais projeté de le prendre avec moi pour une commission que j'avais à faire en ville. En ouvrant la porte pour l'appeler, je le vis, mais dans quel cruel embarras il se trouvait. Le pauvre petit avait joué dans le jardin et était tombé dans la boue. Ainsi, quand je l'appelais, avais-je désormais un double objectif. Il y avait mon dessein principal, prendre l'enfant avec moi en ville. Mais il y avait aussi la nécessité accidentelle de le mettre au propre, et cette nécessité devait être incorporée à mon intention première. Il me fallait faire une œuvre de grâce pour que mon dessein pût être réalisé. Quand je l'eus bien lavé et changé, le petit homme se prit d'intérêt pour un nouveau jouet qu'il venait de recevoir, et il se trouva bientôt tellement accaparé par son jeu qu'il fut complètement perdu pour le vrai dessein pour lequel je l'avais fait rentrer. Tout heureux d'être délivré de sa terrible aventure et de se trouver dans des habits propres et secs, il avait l'air d'ignorer complètement mon plan originel. « Papy, insistait-il, laisse-moi rester à la maison, j'aimerais jouer. » Soudain, je réalisais combien facilement les enfants de Dieu peuvent avoir part à sa grâce et recevoir ses bienfaits pour oublier tout aussitôt son dessein originel. Et cet incident me rappela la déclaration significative de saint Paul à Timothée, son jeune fils dans la foi. Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce, sa propre grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ, mais cela même avant les temps éternels. Alors la vocation que Dieu nous adresse a donc deux mobiles, le dessein et la grâce. L'apôtre sait très bien que Timothée doit être identifié avec Dieu dans son dessein éternel s'il veut rester debout au milieu de la fournaise de l'affliction. C'est pour cela qu'il l'exhorte à reconnaître qu'il n'est pas seulement appelé selon la grâce de Dieu, mais aussi selon son propre dessein pour participer à son accomplissement. Bien que Dieu savait dès le commencement qu'Adam prendrait la voie descendante et qu'il lui serait nécessaire d'incorporer à son plan un ministère de grâce, il n'était nullement dans sa pensée que l'homme déchu devint tellement saisi par le ministère de la grâce qu'il en négligeait son appel à réaliser le dessein originel de Dieu. Et c'est pourtant là une déformation innée de tous les fils d'Adam. C'est le fruit de leur déchéance, de notre déchéance. L'homme est toujours enclin à interpréter l'œuvre de Dieu comme une grâce qui lui est destinée et qui doit lui profiter, mais il ne se préoccupe absolument pas de la réalisation du désir ardent qui est caché dans ce cœur de père. Même parmi ceux qui répudient la philosophie égoïste qui met l'homme au centre de tout, on retrouve des traces de cette déformation. Supposez que vous entrepreniez un long voyage de A à Z, et cela pour atteindre une certaine destination. Mais voilà, à la bifurcation W, vous vous trompez de chemin et vous continuez votre course sans vous rendre compte de l'embarras dans lequel vous allez vous trouver. Arrivé à X, vous découvrez tout à coup que vous êtes tout à fait en dehors de la bonne route. En allant au renseignement, vous apprenez qu'il existe pour votre voiture un très bel itinéraire qui va de X à Y et qui vous ramènera à la route que vous avez manquée. En arrivant à Y, sur votre route principale, subjugué par la beauté du chemin qui vous a ramené sur la grande route, vous vous arrêtez là pour camper et vous passez le reste de la journée à raconter à tout le monde par quel magnifique chemin vous vous êtes sorti de peine. Une semaine après, vous êtes encore là à commenter cette grande expérience et comment elle avait fini. Une année plus tard, 10 ans plus tard, vous êtes toujours à la même place, expliquant à qui veut vous entendre que vous étiez perdu et par quelle merveilleuse expérience vous avez été délivré. Dans toute cette histoire, c'est Y qui s'est trouvé être le but, alors que ce point n'était en réalité qu'une étape vers votre véritable destination. Vous avez laissé votre expérience dégarée, masquer le véritable objectif de votre voyage. Vous avez pris la partie pour le tout. Vous avez oublié que votre course avait un autre but et une autre destination. Si sommaire que soit cette illustration, elle donne une image de l'obscurcissement que la phrase rédemptrice de la grâce de Dieu peut faire subir à son intention originelle. De quelle myopie nous frappe-t-elle cette interprétation hâtive des intentions divines appréciées à la seule lumière de leur effet sur nous-mêmes et sur notre bien-être? Ce crochet du voyage détourné sur X, puis s'attardant à Y, peut-il être considéré comme l'accomplissement de son voyage? Absolument pas. Non. N'est-ce pas? Puisque, rappelez-vous, c'était pour Z, comme Zurich, qu'il était parti. Il a perdu de vue son principal objectif, et vous l'avez bien compris. Mais alors, de quel droit peut-on dire que la rédemption dans la pensée de Dieu devait être le thème central de son univers? C'est la même chose. Avant que la rédemption devînt nécessaire, Dieu avait un dessein bien arrêté qui n'exigeait pas du tout la rédemption pour être réalisée. Si précieuse et merveilleuse que soit la rédemption pour cette humanité égarée et déchue, elle n'est qu'une des, on peut dire, des phases, une phase du grand plan de Dieu. Car jamais Dieu ne décida que l'homme devait pécher pour lui permettre de faire de la rédemption un glorieux moyen de manifester sa grâce. Non. L'arrière-plan de notre vocation est bien plus grand que cette pauvre interprétation voudrait nous le faire croire. Voyez-vous, il serait tout aussi faux de penser que Dieu a été pris par surprise avec la chute de l'homme et que la rédemption est un expédient. Mais non, sa préscience embrassait sans peine ce que l'homme allait faire, comment il allait user de ses facultés morales. Aussi longtemps avant que Adam eût été créé ou soit tombé dans le péché pour suivre son propre chemin, Dieu incorpora parfaitement la rédemption à son plan, démontrant par là les richesses de sa grâce. Dieu était ainsi fondé à nous rappeler que Jésus-Christ était bien l'agneau immolé dès la fondation du monde, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 20. Enfin, nous devons reconnaître que l'appel de Dieu comporte une participation glorieuse, non pas dans quelques rares domaines, mais en toutes choses. Et cette participation ou cette communion, c'est le même mot en grec, koinonia, est toujours au niveau de la révélation que nous avons reçue, ou si vous voulez, à la mesure de notre expérience. Nous pensons quelquefois qu'il est difficile de réaliser beaucoup de communion avec ceux dont les intérêts sont si différents des nôtres. Que dire alors de Dieu qui recherche la communion de l'homme, bien qu'il le trouve concentré sur lui-même et sur ses propres entreprises? Ainsi le Père cherche toujours à entraîner l'homme loin des hauts fonds pour le faire avancer en plein eau. Et cela loin de cette vie concentrée sur nos affaires, vers une vie préoccupée des siennes. Remarquez la progression de la communion avec lui et avec nos semblables. Nous sommes d'abord appelés à prendre part à l'Évangile, selon Philippiens chapitre 1, verset 5. C'est merveilleux, car nous partageons avec les autres l'expérience de la grâce de Dieu. Mais ce n'est là qu'un commencement. En apprenant à marcher, nous sommes conduits dans l'union d'esprit ou la communion de l'esprit, comme traduit la version allemande, Philippiens chapitre 2, verset 1. Et nous découvrons alors un appel à marcher selon l'Esprit et à être rempli de l'Esprit Saint. Mais le Saint-Esprit ne vit que pour nous rendre Christ plus réel. Et ainsi nous voilà appelés à la communion de son Fils. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Qui est encore plus profonde. Qu'y a-t-il, chers amis, de plus admirable? Et au fur et à mesure que nous arrivons à partager sa manière de penser et que nous progressons dans cette communion, nous sommes appelés comme saint Paul à la communion de ses souffrances, Philippiens chapitre 3, verset 10. Et c'est là la vocation de ceux qui désirent entrer comme le Seigneur Jésus-Christ dans un ministère fructueux, vivant pour le Père et ayant part à sa puissance de résurrection, ainsi que l'autorité qui en découle. Nous sommes donc certains que personne ne se maintiendra longtemps dans cette communion de ses souffrances, à moins d'avoir fait un pas décisif vers une communion plus étendue avec le Père lui-même et ses propres desseins. C'est la pensée qui est sous-entendue dans l'exhortation de saint Paul à son jeune disciple Timothée, 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Selon son propre dessein, parallèlement, saint Paul dévoile sa préoccupation la plus profonde, appeler tous les hommes à voir quelle est la communion du mystère, Éphésiens chapitre 3 verset 9. Nous avons atteint ici la communion à son degré absolu. Et pourtant, combien se contentent de l'appeler un mystère? Ils n'ont jamais vu que notre communion avec le Père peut être assez étroite pour nous permettre de connaître ce qui était caché de tout temps en Dieu. Mais saint Paul nous rappelle que Dieu a l'intention de faire connaître aujourd'hui par l'Église sa sagesse infiniment variée. C'est certainement là un appel de Dieu aux siens pour les attirer dans l'éternel, pour les rendre participants de ses glorieux desseins et de sa suprême pensée. Cela signifie que nous devons vivre là où toutes les parties s'intègrent parfaitement dans le tout, dans son intention immuable. Un simple coup d'œil autour de nous, dans l'Église d'aujourd'hui, révèle une chose, c'est que les hommes ne se préoccupent maintenant que d'une partie de la vérité. Acceptée sous cette forme limitée, la vérité détermine le niveau de leur communion. Il y en a qui lisent la Bible comme si elle n'était qu'un livre de salut. Elle est un livre de salut. Dieu soit béni pour cela. Mais elle est davantage. D'autres la lisent comme si elle n'était que le livre du royaume. Elle inclut le royaume, mais bien plus que le royaume. En d'autres termes, et cela a dit quelqu'un, elle révèle les suprêmes desseins de Dieu en Christ. Donc, elle révèle aussi quelques-uns des stratagèmes par lesquels Satan a cherché à contrecarrer Dieu, à l'empêcher d'atteindre son objectif absolu, d'arriver à la fin glorieuse qu'il poursuit. Le salut des hommes n'est pas une fin en soi. Ni Israël, ni l'Église ne représentent l'absolu dans le dessein de Dieu. Ce sont des éléments d'un très grand plan qui les dépasse tous, des composantes d'un dessein plus puissant et plus magnifique que celui qui les a suscités. Ne pas le reconnaître, c'est faire preuve d'un sérieux défaut de vision spirituelle. Que conclure de tout cela? Eh bien, simplement, que nous devons atteindre une position qui ait Dieu comme centre et d'où nous puissions bien saisir l'ensemble de sa pensée et y rattacher tous les éléments constitutifs de son dessein. Cela signifie aussi que nous ne pouvons pas être longtemps en communion avec le Fils et partager sa consécration et ses souffrances sans en venir à une nouvelle révélation du Père, tel, voyez-vous, que nous n'en avons jamais connu de pareil. Car la plus grande satisfaction du Fils, c'est de révéler son Père. Nous constaterons alors que notre communion avec le Père ne cesse de grandir et de s'étendre à mesure que nous découvrons tout ce qu'il a envisagé pour lui-même, pour son Fils unique et pour ses nombreux autres fils. Quel programme connaître une communion aussi ineffable, avoir part à l'absolu. Aussi, nous allons voir tout ce que cela comporte. Oui, donc, ce serait vraiment merveilleux si nous pouvions vivre comme certains l'ont essayé dans l'illusion qu'il n'y a pas eu de chute et que par conséquent, il n'y a pas de péché. C'est trop beau pour être vrai, mais nous savons à quoi nous en tenir. Le péché est une réalité, et de nos jours plus que jamais, et nous portons tous les marques de la chute. De là, la nécessité pour nous d'examiner comment Dieu s'y prend pour tirer le pécheur de son univers centré sur lui-même et le mettre dans une position où il aura Dieu pour centre. Nous allons voir comment l'œuvre de la croix détourne l'homme de son centre naturel pour le diriger, vers un nouveau centre. Un pasteur a fait imprimer dernièrement cette devise « Les yeux en bas ». Eh bien, ce texte n'a pas manqué de susciter de nombreux commentaires de la part de ceux qui sont habitués à s'entendre dire les yeux en haut, et on les comprend. La plupart du temps, le choc ainsi provoqué atteint évidemment son but. Si l'observateur est un croyant, Cette nouvelle formule lui rappelle que tout dépend de l'endroit où il se trouve. Si nous sommes ici en bas, naturellement, nous devons lever les yeux vers lui, vers Dieu. Mais si nous sommes vraiment avec Christ en Dieu, alors nous sommes élevés à un belvédère du haut duquel nous pouvons embrasser du regard une vie toute nouvelle. Une petite histoire va nous permettre d'illustrer la chose. Le petit Michel a promis qu'il ne quitterait pas le jardin et on peut compter sur sa parole. On lui a d'ailleurs rappelé qu'il y avait foule dans la rue ce jour-là à cause du défilé. Mais lorsque le cortège se mit en marche et que les cuivres commencèrent à jouer, Michel réalisa soudain ce qu'il était en train de manquer. Oh, s'il seulement il pouvait renverser cette haute barrière de planches qui veillait sur la sécurité de son jardin. Tout ce qu'il pouvait voir du défilé lui venait par un tout petit trou laissé par un nœud dans une planche de la barrière. Et il y avait constamment de l'autre côté des gens qui l'empêchaient de voir plus loin. Soudain, il entendit la voix de son grand frère qui l'appelait de la véranda du premier étage. « Michel, pourquoi est-ce que tu ne montes pas ici ?» Michel était bien trop petit pour atteindre le premier échelon de l'échelle extérieure. Alors, son frère descendit, le saisit d'un bras vigoureux et le porta jusque en haut. Quel spectacle ! Il ne pouvait plus contenir sa joie. « Oh ! S'écria-t-il, maintenant je peux même voir ce qui a déjà passé et ce qui passe maintenant. Et tout là-bas, au bout de la rue, eh bien je peux voir ce qui vient. » Donc il vivait dans un monde tout nouveau, car pour lui, passé, présent et avenir se trouvaient réunis dans un magnifique maintenant. C'est ce qui arrive quand, répondant à l'invitation de Dieu, nous montons voir le défilé du temps du point de vue élevé que nous offrent les lieux célestes. Le regard de Dieu embrasse non seulement les événements qui se déroulent dans le temps, mais il voit tout ce qu'il a conçu dans le livre de la Genèse et tout ce qui se consommera après l'Apocalypse. Vu de son éternel maintenant, l'éternité devient un tout complet dont la partie que nous appelons le temps ne constitue qu'une toute petite parenthèse. Il semble que le psalmiste ait désiré cette position céleste quand il écrivait « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. » Pourquoi intelligent ? Le psalmiste a-t-il décelé notre besoin de voir les choses du point de vue de Dieu, de pouvoir comprendre tout ce qu'il y avait dans les intentions divines? Mais c'est en réalité l'apôtre Paul qui regarde ce point de vue comme indispensable. Dans sa prière pour les Colossiens, il expose clairement la chose. Voici comment la traduction allemande rend ce verset. Nous demandons à Dieu que vous puissiez voir les choses, pour ainsi dire, de son point de vue, grâce a un don de pénétration spirituelle de l'intelligence spirituelle. Colossiens chapitre 1 verset 9. Ainsi donc, chaque homme se trouve dans l'une de ces deux positions, ou bien il a son centre en lui-même et regarde en haut, de son propre point de vue, ou bien il jouit du point de vue auquel saint Paul fait allusion dans sa prière, il regarde en bas, du point de vue de Dieu, il regarde avec ses yeux, les yeux de l'Esprit Saint. Mais il ne suffit pas d'une simple et pieuse réflexion pour transférer l'homme déchu dans cette nouvelle position. Ce n'est pas une œuvre à la portée de l'homme. Dieu seul peut l'accomplir. C'est Dieu qui est entré si profondément dans notre humanité qu'il peut élever l'homme en le faisant vivre sur un autre plan et l'affranchir en lui assignant un autre centre où tout devient différent. Chers amis, nous avons représenté le moyen par lequel Dieu fait passer l'homme de la famille d'Adam dans le royaume de son fils bien-aimé. Donc, maintenant, les hommes en Adam, ils vivent, comme vous le savez, pour eux-mêmes, appréciant toutes les circonstances de la vie selon qu'elles les touchent. Au lieu de porter Dieu au trône, Adam s'y est mis lui-même. Il s'y est posé lui-même sur le trône en mangeant de propos délibérés du fameux fruit défendu, rappelez-vous. Et à partir de ce jour-là, eh bien, plus rien n'a marché convenablement pour lui et pour sa famille entière. Elle a été entraînée dans ce dérèglement. En essayant d'être lui-même, l'homme cherche donc à exploiter Dieu et à faire servir toutes ses œuvres à ses fins personnelles. Et voici comment Dieu décrit l'état dans lequel l'homme s'est mis. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Il ne s'agit pas des conséquences, mais de la nature même de la voie qu'ils suivent. Rien ne peut réussir pour celui qui, consciemment ou inconsciemment, fait graviter l'univers autour de lui-même. Quel châtiment que de vivre en compagnie d'un moi avec lequel il est impossible de s'entendre. Tant que vous avez votre centre en vous-même, votre moi n'exerce aucun attrait sur vous. Vous ne vous plaisez pas avec lui. Quelqu'un a exprimé la chose ainsi. Cet élément merveilleux de laisser tomber notre moi de nos mains pour l'abandonner à celle de Dieu le Père. C'est comme si on vivait dans un monde nouveau. L'homme n'a pas été créé pour être le centre, et toute tentative d'édifier ce faux univers ne peut aboutir que à un désastre. Et c'est ainsi que Dieu a fait les choses, et il ne sert à rien de régimber contre les aiguillons comme saint Paul l'a appris à ses dépens. Dieu, par l'œuvre de Christ sur la croix, a mis fin à la vieille race issue d'Adam. Nous estimons, explique saint Paul, que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui, donc pour Dieu, qui est mort et ressuscité pour eux, c'est Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Il est important de revoir cette phrase. « Nous estimons, explique l'apôtre Paul, que si un seul est mort pour tous, c'est Jésus-Christ. Alors tous, donc, sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui, pour Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité pour eux, qui est ressuscité pour toi et pour moi. » 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Donc, saint Paul révèle que c'était la volonté délibérée de Dieu de mettre la race d'Adam tout entière sur la croix pour liquider le principe du « moi » qui s'oppose à Dieu. Ainsi, lorsque Dieu abaisse son regard sur la croix, il nous a vus unis à son Fils dans la mort. Alléluia. Tout ce qui est impliqué dans la trahison du péché a eu son compte réglé là. Ainsi, du point de vue de Dieu, l'homme a été crucifié avec Christ, mais il a été enseveli avec Christ dans le sépulcre neuf de Joseph d'Arimathée. Plus encore, il est ressuscité avec Christ à une vie nouvelle, et nous ne sommes pas au bout. Il a été installé avec Christ en Dieu, dans une nouvelle et céleste position. C'est extraordinaire. Or, de même que Dieu considère tout cela comme s'étant réalisé, c'est ainsi qu'il le voit de son point de vue. Nous devons, nous aussi, par la foi, nous l'approprier comme notre expérience personnelle. C'est ce que saint Paul décrit en quelques mots: crucifié, enseveli et ressuscité, assis avec lui dans les lieux célestes. Ce n'est pas là quelque chose que nous accomplissons. Non, non, non. Nous le voyons par révélation. Nous voyons que la chose nous est arrivée en lui, en Dieu, et par la foi, nous vivons dans cette assurance-là. L'homme a été ressuscité avec Christ et se trouve maintenant dans une nouvelle position en lui. Nous connaissons une multitude de croyants qui ont reçu l'enseignement exact concernant leur position en Christ. Ils parlent avec conviction de l'œuvre accomplie entièrement par Christ, par laquelle ils ont obtenu pardon, délivrance, victoire et autorité. Et ils ont de bonnes raisons de se réjouir de tout ce qui a été fait pour eux. Mais c'est justement ici que les choses se gâtent. Ici qu'ils sont pris au piège. Ils n'ont jamais changé de centre. Tout ce qui est devenu disponible pour eux en Christ, ils continuent à le rapporter que à eux-mêmes, à mon égoïsme, à mon excentricité, au vieux centre, au moi. Ils n'ont pas connu cette action profonde de la croix qui les aurait libérés pour une vie centrée sur Dieu, où tout se rapporte à lui. Voici le témoignage d'un pasteur. Il y a presque 15 ans, que j'ai commencé à prêcher les gloires de notre position en Christ et souligner les vérités concernant notre identification avec lui dans sa mort et sa résurrection, seul chemin débouchant sur une vie victorieuse. Et ce thème est maintenant enseigné dans tout le pays par des centaines de prédicateurs. Cependant, sans m'en rendre compte, je faisais toujours tout converger sur l'homme, sur ses besoins, sur son bien-être. Tout était uniquement pour l'homme et tout ce que l'homme gagnait ou pouvait gagner par sa nouvelle position en Christ. En réalité, le centre n'avait absolument jamais changé. Or, un jour, la vérité a éclaté. Je me suis aperçu à quel point cet enseignement était loin d'offrir à l'homme une pleine et entière émancipation de cette vie centrée que sur lui-même pour le conduire à une vie de plénitude autour d'un nouveau centre. Une chose me devint donc évidente, tant qu'on attire quelqu'un en lui montrant ce qu'il peut obtenir, on est encore sur le terrain habituel de la prédication populaire, mais l'œuvre radicale de la croix qui vous libère de cette vie propre en faveur d'un nouveau centre est une expérience toute différente. Tant qu'on est surtout sensible à ce que Dieu fait pour l'homme, à ce que la croix réalise pour l'homme, à ce que notre position en Christ signifie pour l'homme, pour moi, c'est qu'on n'a jamais saisi tout ce que le Père avait à la pensée quand il a placé son Fils bien-aimé en nous. C'était pour que nous en venions à la même vision, aux mêmes aspirations, à la même consécration et à la même philosophie de la vie que le Fils partage avec le Père. Nous ne sommes pas seulement centrés sur Christ, mais avec lui, nous sommes centrés en Dieu le Père, avec Christ. Ce n'est plus de notre victoire unique et le moi qu'il s'agit, ce n'est plus notre dessein qui est en cause, mais nous vivons dans son dessein, ce n'est plus notre consécration qui compte, mais nous vivons dans la sienne. Toutes choses sont donc vraiment devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Comme nous l'avons représenté, la grande majorité des chrétiens cherchent à profiter de tout ce qui leur échoit du fait de leur position en Christ. Ils paraissent avoir entendu cette proclamation qui dit « Nous jouissons donc de vos biens. Vivez dans la plénitude de votre héritage. » Mais bientôt, bon nombre d'entre eux se demandent pourquoi leur tentative de s'approprier toutes les bénédictions qui leur sont proposées les laissant froids, vides et insatisfaits. Pourquoi cela? Mais parce que la pleine lumière ne leur est pas encore apparue. Dieu ne les a pas appelés à une vie de profit, mais à une vie centrée sur lui, dans laquelle il n'est question que de donner, et où toutes choses sont nouvelles. Donc, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, Saint Paul semble toucher le cœur du problème. Il explique ce que c'est et qui l'a conduit à une vie qui n'a pas d'autre centre que Dieu. Pour saint Paul, être une nouvelle créature en Christ est plus qu'une position doctrinale. C'est une expérience réelle produite par une révélation. Être avec Christ en Dieu, pour lui, c'est prendre note de tout avec les yeux de Dieu. C'est voir, interpréter et rapporter tout à lui. Quelqu'un qui est entré dans cette expérience n'a pas besoin qu'on la lui explique. Il sait ce que cela signifie d'être libéré des chaînes qu'il liait à ce vieux centre terrestre où l'on rapporte tout à soi-même et d'être transféré dans un monde nouveau dans lequel tous les événements sont jugés selon qu'ils affectent Dieu, selon leur incidence sur lui. Et c'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Examinons maintenant 4 des changements qui vont se produire quand nous commençons à prendre connaissance de tout avec ses yeux, et que pour toute chose, notre critère d'appréciation est la mesure dans laquelle elle contribue à réaliser sa suprême intention. Donc il y a un nouveau point de vue. Vous trouvez cela dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. L'apôtre Paul écrit du reste, « Désormais, nous ne considérons et n'apprécions personne d'un point de vue purement humain en nous fondant sur une échelle de valeur, on peut dire, hein, et une échelle naturelle, non même si nous avons naguère apprécié Christ d'un point de vue simplement humain. Ce n'est plus de cette manière-là que nous le connaissons, selon la version allemande. Donc autrefois, nous n'avons pas regardé, ou nous avons plutôt regardé que à notre faiblesse, mais pas à notre possibilité en Jésus-Christ. Je répète, autrefois, nous regardions que à notre faiblesse, que à nos insuccès. Et cela pour n'arriver à quoi ? Au désespoir. Alors nous vivons sous les yeux scrutateurs de nos semblables pour n'aboutir qu'à l'esclavage. Maintenant, c'est avec ses yeux, avec les yeux de Dieu, ça change tout, que nous enregistrons tout ce qui se passe et que nous considérons la pierre brute que nous sommes et sur laquelle il est en train de travailler, mais nous voyons aussi plus loin le produit fini qui va en sortir. Et nous voyons nous-mêmes comme lui nous voit, non la pierre brute, mais la pierre façonnée qui réjouira son cœur. Quelle différence, non? Nous voir nous-mêmes et voir les autres non plus selon la chair, mais de les voir comme Dieu les voit, ces pierres vivantes qu'il va bientôt assembler pour constituer le temple des siècles à venir. comme nos désirs et nos problèmes paraissent petits à côté de tout cela, mais que c'est merveilleux, merveilleux d'avoir part à quelque chose d'aussi grandiose que son intention suprême. Nous avons un nouveau principe de relativité. Un événement n'est plus jugé par ses incidences sur ma petite personne, mais selon qu'il affecte Dieu et l'accomplissement de son dessein. De ce nouveau point de vue que nous occupons, nous commençons à voir avec saint Paul comment toute chose concourt à la réalisation de son dessein. Auparavant, nous rapportions les événements à nous-mêmes et les jugions selon qu'ils nous touchaient. Mais maintenant, nous les considérons dans leur rapport avec son intention suprême. Et comme l'apôtre Paul, nous disons de tout ce qui arrive, tout vient de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Un soir, une missionnaire qui avait une longue carrière derrière elle était assise avec nous devant la cheminée. Elle nous raconta comment Dieu avait préparé son cœur à faire le pas d'une vie centrée sur elle-même à une vie centrée sur Dieu. Elle expliqua comment, depuis des années, quand les circonstances devenaient trop difficiles ou les problèmes trop brûlants, elle avait l'habitude de pousser un gémissement intérieur et de se mordre la lèvre. « Seigneur, disait-elle, tu sais ce qui en est. Je sais bien, bien sûr, que tout concourt à notre bien, et je pense donc que je dois pouvoir supporter toutes ces choses, puisque, pour finir, j'en tirerai un bénéfice. Or ce soir, poursuivait-elle, je suis entré dans une nouvelle vie. J'ai vu s'établir des rapports tout nouveaux entre Dieu et les événements. Elle exposa ensuite comment elle était depuis très longtemps la victime inconsciente d'une relation totalement fausse, victime d'une fausse attitude vis-à-vis des circonstances. En rapportant tout à elle-même, elle espérait que les événements finiraient par lui être profitables. À quel point, confessa-t-elle, j'ai été moi-même le centre de mon petit monde religieux. Sans m'en rendre compte, j'ai essayé de me servir de Dieu et je n'ai vu dans mes expériences douloureuses que quelque chose qui m'affectait personnellement. Mes intentions étaient bonnes, mais j'étais absolument aveugle. Or ce soir, ajouta-t-elle, j'en suis venu à voir la grande différence qu'il y a entre s'occuper de Dieu lui-même ou ne s'occuper que de soi-même. Le Saint-Esprit m'a révélé que saint Paul entendait quand, de son point de vue nouveau, il ramenait tout uniquement à Dieu. J'aimerais que vous compreniez, mes frères et sœurs, que les choses qui me sont arrivées ont plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Philippiens chapitre 1, verset 12. Quelle émancipation quand nous commencerons, chers amis, à mettre toutes les parties en relation avec l'ensemble, là nous verrons comment tous les actes de Dieu sont en parfaite harmonie avec le désir qu'il s'est proposé de réaliser. Il y a un nouveau centre d'intérêt. L'apôtre Paul nous rappelle, en outre, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, que nous sommes les ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. Alors un pasteur, il avait compris quelque chose de cette nouvelle position. Il dit ceci, « J'essayais naguère de me servir uniquement de Dieu, mais maintenant, c'est Dieu qui se sert de moi. » Je répète, « J'essayais naguère de me servir de Dieu, mais maintenant, c'est Dieu qui se sert de moi. » C'est bien cela. Autrefois, nous nous intéressions au travail pour lui, pour Dieu. Mais maintenant, nous nous intéressons à lui, et c'est lui, Dieu, qui travaille par nous. Ça, croyez-moi, ça change tout. Quelle révélation glorieuse! Fils de Dieu, fille de Dieu. Tout cela dépasse presque les limites de notre compréhension. Ainsi donc le Père a résolu en lui-même de faire de Christ le centre de toute son activité. C'est son Fils bien-aimé. C'est celui dont toute la personne est pleine de charme. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. C'est lui qui est destiné à l'éternelle et universelle prééminence. Connaissant cette suprême pensée en faveur du Fils, nous pouvons mieux comprendre l'intention du Père en faveur de ses nombreux fils et filles, j'ajoute les filles, qui sont les éléments constitutifs du corps de Christ. Mais s'il nous manque la révélation de ce que le Père a résolu de faire pour son Fils, c'est là la distance qui nous sépare du but et une rectification s'impose. L'harmonie doit s'établir entre la pensée réelle de Dieu et l'idée que nous nous en étions faites. En observant tout à partir de son cœur de Père, nous pouvons nous servir maintenant de l'étalon absolu qui nous permet d'évaluer ce qui correspond ou ne correspond pas à l'intention du Père. Tout ce qui est en harmonie avec lui aura son approbation. Certaines personnes s'étonnent que le Père se soit fixé un tel objectif, et c'est pourtant là ce qui est sorti de ses conseils éternels. Mais souvenez-vous de ceci, le Fils éternel ainsi que son corps de fils rectifié dans leur vision, dans leur conception des choses, sont destinés à vivre avec un seul but en vue, c'est d'apporter au Père l'honneur, la gloire, le plaisir et la satisfaction dans la mesure la plus complète, c'est-à-dire et au plus haut degré. Ainsi, tandis que le Père se préoccupe de son Fils, le Fils, de son côté, se préoccupe du Père comme nous le verrons dans les prochaines études. Et c'est là la règle divine qui qui gouverne toute l'activité céleste. En attendant, chers amis, gardons bien à l'esprit que Dieu a la ferme intention d'amener tous ses fils